contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, Clémentine, Jean-Luc,
bonjour
David,
Stéphane.
Bonjour à vous.
Stéphane.
Et celle qui est avec nous aujourd'hui, la journaliste à la mode, Ivan Jacob. Bonjour Ivan.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois dames qui n'auraient jamais pu se croiser. Alors, elles ne vivaient pas à la même époque, mais elles ont cependant un point commun. Aujourd'hui...
Êtes-vous prêts pour un conte de fées?
Mais oui, nous sommes prêts, et surtout elles, elles ont fait des contes de fées. C'est le thème féerique d'Historiquement Vôtre, cet après-midi. À commencer par celle qui fut l'une des premières à en écrire, Marie-Catherine d'Aulnoy, qui a publié ses contes des fées. C'était leur titre, et c'est devenu un genre à part entière de la littérature, genre dans lequel elle excellait, vous verrez. Puis je vous raconte une écrivaine qui a fait des contes, elle aussi, mais à la fin de sa vie. George Sand, dont on connaît davantage les romans, les amours et les idées. Mais ceux-là, c'est à ses petites filles, à toutes les autres, qu'ils étaient destinés. Et après les mortes, la vivante, c'est vous Jean-Luc Lemoine qui dresserez, vers 17h30, le portrait de notre troisième dame du jour, une chanteuse qui semble, elle, tout droit échappée d'un conte de fées.
Oui, elle a son univers, comme on dit. Je vous raconte Mylène Farmer qui a écrit des contes pour les grands. Et on a chanté aussi, vous verrez, enfin, surtout vous entendrez.
Aussi, on les entend et c'est à chaque fois un conte de fées. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, de quoi nous parlez-vous ?
Eh bien, d'un auteur qui, lui, a plutôt dépeint la réalité qu'il n'a écrit des contes de fées, c'est Victor Hugo. Et là, précisément, à l'occasion des 150 ans de l'apparition des Années Terribles, eh bien, il y a une exposition arrive sur scène au musée Victor Hugo qui permet de redécouvrir comment Hugo a vécu les épisodes marquants de la fin du Second Empire, du siège de Paris, de la Commune.
Très bien. Alors lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est David Cassel-Lopez. De quoi nous parlez-vous, David ?
Un truc, on se demande pourquoi je n'ai pas parlé avant, le pétrole.
Oui.
Oui, d'où ça vient ? D'où ça vient déjà en tant que substance ? Et d'où vient le fait c'est qui le premier qui est allé le chercher sous la terre ? Voilà.
Oui, donc, c'est ça. Oui.
Parce que c'est partout. Hein, c'est vraiment. Je vous en parlerai, mais il y a vraiment pas grand chose dans lequel il y a pas de pétrole.
Mmh. Voilà. Oui. Bientôt, il est fossile quand même. Bientôt, il n'y en aura plus du tout.
Exactement. Même s'il n'est pas, c'est pas très cool en ce moment, disons le pétrole.
Non. Voilà. C'est pas très bien vu.
Ouais, non, non.
Les origines, c'est en toute fin d'émission, mais juste avant, comme dirait l'autre.
Mais ailleurs quelle époque ? Mais ailleurs quelle époque ?
Eh oui. Mais ailleurs quelle époque ? Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte en 1969 et on part sur la Lune pour parler mode avec vous, Ivan Jacob. Vous allez nous parler combinaison spatiale ?
Oui, vous voyez l'image de cet homme sur la Lune. Je pense que vous l'avez déjà croisé.
Bon, très sexy.
Très sexy dans une combinaison spatiale incroyable. Et on se dit, cette combinaison, elle a dû être fabriquée par des ingénieurs de la NASA, des types très pointus, etc. Et bien, pas du tout. En fait, elle a été créée par des couturières qui avaient l'habitude avant de faire des soutiens-gorge.
Non.
Oui, des couturières incroyable. De Playtex.
Mes aïeux, quelle époque ? Ce sera tout à l'heure, vers 17h40. Sans oublier, dans trois quarts d'heure, le fameux quiz historique Born to be Alive. Vous allez m'opposer, cher Jean-Luc, à Clémentine, pour savoir qui de nous deux est le meilleur en histoire. Enfin, en histoire farfelue, hein, car vos questions ne sont pas toutes d'une rigueur absolue, n'est-ce pas ?
Bah, pas du tout, je m'inscris en faux, cher Stéphane. Mes questions sont toutes rédigées par des historiens qui ont tous... le diplôme de l'Institut Jean-Luc Lemoine du savoir historique. Un gage de qualité.
Ah oui, effectivement, ça force le respect. Mais pour l'heure, je vous raconte notre première dame du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Célèbre en son temps pour son éloquence, elle a écrit une vingtaine de contes de fées. La princesse Belle Étoile et le prince Chéri, Finette Cendron, encore la belle aux cheveux d'or. Je vous compte maintenant la comtesse Marie-Catherine d'Aulnoy, la conteuse la plus lue du règne de Louis XIV. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle dans l'hôtel particulier de Marie-Catherine d'Aulnoy à Paris. Un écrin sublime pour les membres de l'aristocratie et de la noblesse de robe, les artistes et les écrivains qui se pressent dans le salon de la comtesse pour parler art et littérature et pour échanger sur les nouvelles du jour. Si la plupart des écrivains viennent y lire des extraits de leur œuvre en cours, Marie-Catherine fait de même, en imaginant des histoires à haute voix ou en lisant quelques contes déjà écrits dont elle seule semble avoir le secret. Certains convives lui réclament la chatte blanche et la description du banquet avec ses fameux chats. Redit l'arduse, pendu par les pieds au conseil des rats, le chat beauté, marquis de Carabas, le chat qui écrit les sorciers devenus chats. Madame d'Aunois raconte aussi comment ses mères jadis, gracieuses et persinées, après qu'une marâtre ait chassé gracieuse dans la forêt sans lui donner de vivre ni le moindre vêtement. Ces merveilleux contes de fées qui ont fait longtemps la joie des adultes auxquels ils étaient destinés, puis progressivement des enfants, sont nés de l'imagination et de la plume de Marie-Catherine d'Aunois. Si les gravures de l'époque la représentent sous les traits d'une personne accorte, aux formes généreuses, il ne laisse guère deviner la réalité de sa vie, qui fut plus proche du roman d'aventure que du conte de fées. Marie-Catherine naît au tout début des années 1650 en Normandie, dans une famille de la vieille noblesse. Son père, Claude, le jumel de Barneville, décède peu de temps après sa naissance, précipitant alors la famille dans l'embarras financier. La mère de Marie-Catherine, marquise de Gudane, fait alors le choix de la marier à 15 ans un homme de plus petite noblesse, mais déjà très fortuné, François de la Motte, baron d'Aunois en Brie, qui a lui 46 ans. Sans doute a-t-elle quelques amants, en tout cas, sur les 6 enfants qu'elle mettra au monde au cours de sa vie, 4 seront illégitimes. Si Madame d'Aunois est de mœurs légères, son mari n'est pas non plus un saint. On le dit, prompt de la braguette et chaud de la langue. Il entretient, comme l'époque l'y invite, de nombreuses relations extra-conjugales, le mariage ne supposant alors pas la fidélité. Rapidement, les rapports entre les époux se détériorent, moins pour des raisons sentimentales que parce que François d'Aunois est violent et qu'il a de plus perdu une grande partie de sa fortune. C'est en tout cas ce que rapportent les récits du temps. Après 3 années de vie commune, Marie-Catherine se montre de moins en moins encline à supporter son encombrant époux. Pour se débarrasser de lui, sa solution est radicale. Elle imagine, avec la complicité de sa mère, de le faire accuser de crimes de lèse-majesté. François d'Aunois est aussitôt arrêté, emmené et incarcéré à la Bastille. Son innocence prouvée, il est bientôt relâché. La justice s'intéresse aux accusations portées contre lui par son épouse et sa belle-mère. La suite de l'histoire est mal connue. Alors que des gardes du roi viennent l'arrêter, Madame d'Aunois se serait enfuie par un escalier dérobé pour se cacher sous une estrade funéraire dans une église non loin de chez elle. Reconnue, elle aurait passé plusieurs jours à la conciergerie avant de gagner un couvent où elle aurait été condamnée à faire pénitence. Grâce à des amis haut placés, elle trouve néanmoins le moyen d'être libérée, délivrée. Madame d'Aunois a 22 ans et durant les 20 années qui suivent, elle mène une existence demeurée mystérieuse, si ce n'est qu'elle s'est déroulée en Flandre, en Angleterre et en Espagne. Cette période d'errance lui inspire d'ailleurs La relation du voyage en Espagne, un ouvrage dans lequel elle décrit avec un sens remarquable de l'observation et du détail les coutumes espagnoles bien différentes des françaises. Ainsi, en Espagne, les hommes mangent à table et leurs femmes par terre sur un tapis. Invitée à dîner, Marie-Catherine d'Aunois se trouve fort surprise, mais elle l'accepte. Mal lui en prend, ses jambes la font tant souffrir que son hôte lui propose de s'asseoir à table. Telle est l'anecdote qu'elle rapporte dans son ouvrage. Il se pourrait aussi que sa mère et elle aient été chargées d'espionner la cour d'Espagne pour le compte de Louis XIV, mais cela, elle ne l'écrit pas. Quoi qu'il en soit, en 1690, on retrouve Marie-Catherine d'Aunois à Paris. Toute poursuite contre elle semble avoir été levée. Elle publie quelques ouvrages pieux et fréquente les salons où son éloquence la fait remarquer, notamment dans un domaine, celui du conte. Le conte merveilleux, avant même d'être écrit, est un jeu de société fréquent dans les salons ou à la cour du roi Louis XIV. Les aristocrates mondains cherchent dans leur mémoire des histoires populaires racontées, disent certains, par leurs nourrices pour se distraire et rivaliser d'esprit. Ce sont surtout les dames qui se réunissent pour mitonner des contes, selon l'expression à la mode. Parmi elles, Madame de Sévigné, mais aussi Marie-Catherine d'Aunois, qui en 1690 publie son premier roman sous le nom de Madame D. Dans ce roman, l'histoire d'Hippolyte, comte de Douglas, le héros tombe amoureux d'une jeune fille entrée au couvent. Pour la rejoindre, il tente d'amadouer la bête en lui racontant un conte, celui de l'île de la félicité. Il s'agit du premier conte merveilleux en prose de la littérature française. Les lecteurs apprécient, si bien que Marie-Catherine d'Aunoy écrit de nouveaux ouvrages. En 1697, elle publie 4 volumes des contes des fées, bientôt suivis de 4 contes nouveaux ou les fées à la mode, contenant des récits comme l'oiseau bleu, la belle aux cheveux d'or, le prince lutin ou la biche au bois. Ce sont les premiers contes de fées qui vont inspirer ses contemporains. L'un d'entre eux, toutefois, devance Madame d'Aunoy de quelques mois en publiant ses propres contes. Et oui, le célèbre Charles Perrault publie son Petit Chaperon Rouge, mais aussi Barbe Bleue, Cendrillon ou encore Peau d'âne, quelques mois seulement avant que Marie-Catherine d'Aunoy ne dévoile ses propres contes des fées. Inspiré par l'œuvre de Perrault et de Madame d'Aunoy, d'autres auteurs du XVIIe siècle vont vite s'emparer du genre. Au XVIIIe siècle, Marie-Catherine d'Aunoy devient la conteuse la plus publiée. Roi disposant de tonneaux d'or et de diamants, châteaux taillés en cristal de roche et chevaux harnachés de pierreries font rêver les lecteurs. Mais derrière ces dorures, ces récits ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air. Et ils s'inspirent parfois de l'histoire de France récente. Dans La princesse Belle Étoile et Le prince chéri, par exemple, la présence forte et négative de la mère du roi n'est pas sans rappeler les démêlés de Louis XIII avec sa propre mère, Marie de Médicis, emprisonnée sur son ordre. En avance sur son temps, Marie-Catherine d'Aunoy ose dépeindre des figures féminines fortes qui prennent leur destin en main. Dans Finette Cendron, à la fin du conte, l'héroïne refuse le mariage si les parents du prince ne rendent pas leur royaume à ses propres parents. Dans le même conte, Cendron fait brûler un ogre dans un four, puis décapite l'ogresse à coups de hache. Pour Marie-Catherine d'Aunoy, son arme, c'est plutôt la plume. L'écrivaine tient salon dans son hôtel particulier de la rue Saint-Benoît. Érudits et gens du monde s'y pressent donc comme la princesse de Conti, la propre fille légitime de Louis XIV. À 48 ans, Marie-Catherine d'Aunoy, qui s'est taillée une solide réputation de femme d'esprit, devient membre de la prestigieuse académie d'Éric Covrati de Padoue. Cela fait d'elle l'une des premières académiciennes françaises. On la surnomme Clio, en référence à la muse grecque chargée de transmettre à la postérité les actions des grands hommes. Mais en vieillissant, ce sont surtout ses contes que Madame d'Aunoy, alitée, transmet à ses petits-enfants. À leur demande, le soir à l'heure des tartines, elle leur raconterait, selon une légende du XIXe siècle, des histoires d'animaux ou des contes de fées. C'est ainsi que la chatte blanche, l'oiseau bleu et la biche auraient accompagné leur créatrice jusqu'à la fin. En janvier 1705, âgée de 55 ans seulement, Marie-Catherine d'Aunoy a embarqué pour un dernier voyage jusqu'au pays des fées.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Marie-Catherine d'Aunoy avec Clémentine Portier-Kaldbach, nous sommes avec Anne de France, professeure émérite de littérature des XVIIe et XVIIIe siècles à l'université Bordeaux-Montaigne. Bonjour Anne de France.
Bonjour Stéphane Bern.
Marie-Catherine d'Aunoy fait partie des femmes qui manient la plume. En tant que conteuse, est-ce qu'elle est perçue de la même façon que ses homologues masculins? Je veux dire, est-ce qu'on adresse les mêmes critiques à Charles Perrault et à Madame d'Aunoy qui sont contemporains?
Alors en fait, non, pas du tout. Madame d'Aunoy, effectivement, a déjà été perçue en son temps comme une grande conteuse, vous l'avez dit. Mais les conteuses, en général, sont passées un peu à la trappe pendant pas mal de temps, parce que l'aura des contes de Perrault, qui sont des contes brefs, sobres, d'une écriture toute classique, a fait de l'ombre, on va dire, aux conteuses, qui ont été plus perçues comme des précieuses. Leurs contes sont plus longs, il y a des modèles romanesques qui les contaminent beaucoup plus que les contes de Perrault. Voilà, alors c'est essentiellement la grande différence, mais c'est vrai que parmi les conteurs, Perrault a triomphé, et parmi les conteuses, eh bien, c'est Madame d'Aulnoy qui a triomphé, on va dire.
Clémentine ?
Oui, au XVIIe siècle, les conteurs veulent divertir avant tout les adultes. Et c'est pour cette raison même, sans doute, que Madame d'Aunoy glisse des messages que vous qualifiez de subversifs dans ses contes. À qui et à quoi s'attaque-t-elle ?
Alors, en fait, elle s'attaque d'abord et essentiellement aux figures de pouvoir. Quand on lit ses contes, on est frappé par la récurrence des pères faibles, des rois minables, parfois aussi des mères, hein, des mères qui sont trop violentes ou qui sont trop ambitieuses. Alors, elle s'attaque essentiellement aussi, son combat, c'est le mariage forcé. Elle le vilipende sans arrêt. Par exemple, dans La morale de l'oiseau bleu, elle dit ceci. À mon sens, il vaut beaucoup mieux être oiseau bleu, corbeau, devenir hibou même, que d'éprouver la peine extrême d'avoir ce que l'on est, toujours devant les yeux. En ces sortes d'hymens, notre siècle est fertile. Les hymens seraient plus heureux si l'on trouvait encore quelque enchanteur habile qui voulût s'opposer à ces coupables nœuds et ne jamais souffrir que l'hyménée unisse par intérêt ou par caprice deux cœurs infortunés s'ils ne s'aiment tous deux. Voilà, alors c'est un message qui va être assez récurrent dans ses contes.
La relation amoureuse est un thème récurrent quand même dans la production littéraire de Madame Dosnoy. Est-ce que c'est pour cela justement, et en référence à ce que vous disiez à l'instant sur les mariages forcés, qu'on peut parler de ces contes comme des contes féminins, voire féministes ?
Oui, alors on peut parler de contes féminins parce que c'est surtout dans la manière dont les personnages abordent la relation amoureuse et surtout comment ils se comportent dans leur couple, hein, de mari et femme ou bien d'amant. C'est plutôt là qu'on verra l'originalité de Madame Dosnoy et on pourra déterminer qu'ils sont féminins. Alors c'est justement dans l'attaque des figures de pouvoir masculin. Et puis, il y a aussi surtout le fait que, les princes charmants ne sont pas forcément toujours géniaux. Et souvent, il faut que ce soit leur amoureuse qui les sauve. Parfois, ils se montrent incapables de mener à bien leurs épreuves, hein. C'est typique, par exemple, dans L'Oiseau bleu. Voilà, alors, on voit se dessiner dans ces contes-là une figure de femme forte, courageuse. Par exemple, aussi, on a une héroïne qui s'appelle, dans le conte Belle-Belle ou le Chevalier Fortuné, bon, elle cumule absolument tous les avantages. Elle est à la fois, elle peut se déguiser en garçon, elle est belle, elle a tous les avantages. Elle bouscule vraiment les représentations traditionnelles, hein, du masculin et du féminin. Et puis alors, ce sont des femmes savantes, ces héroïnes, ce sont des femmes qui lisent, qui sont entourées de livres, qui sont éduquées. Voilà, donc ça, je pense que c'est par là que peut-être on pourrait parler de cette conteuse comme féministe.
Anne de France, pourquoi Madame Dosnoy écrit-elle sous pseudonyme ? Elle signe Madame D.
Oui, c'est vrai. Alors, elle n'est pas la seule, hein. C'est une pratique extrêmement répandue au XVIIe siècle. En général, l'anonymat, bon, ça peut s'expliquer si l'ouvrage est dangereux, compromettant, mais ce n'est pas son cas, ni celui de tous les auteurs de contes qui ont tous publié anonymement. Même Perrault s'est déguisé sous le nom de son fils. Alors, anonymat, pourquoi ? Modestie, coquetterie, bon, je pense que ça peut se comprendre aussi comme une manière d'entretenir un peu un suspense, une devinette, une manière de stimuler la curiosité des uns et des autres dans les salons, dans la presse.
Mais en réalité, c'est un secret de Polichinelle, tout le monde sait de qui il s'agit.
Oui.
Voilà, très souvent, hein, parce que les contes circulent à l'oral dans les salons avant d'être écrits, donc forcément, ils sont connus. Et c'est vrai que par moments même, au bout de certains ouvrages, comme à l'époque, les libraires doivent solliciter des permissions pour publier. Il arrive même quelquefois dans certains textes qu'on trouve la signature au fond de l'auteur déguisée à la fin du livre. Bon, ça n'a pas été son cas, mais elle a été un peu exaspérée de voir qu'on a utilisé sa réputation pour lui attribuer des contes qu'elle n'a pas écrits. Donc, vers la fin de sa vie, dans son dernier roman, Le Comte de Warwick, elle corrige tout ça et puis elle établit la liste de ses œuvres.
J'ai mentionné dans le récit le conte Finette Cendron de Madame Dosnoy. Et en préparant cette émission, vous nous avez appris, Anne de France, que c'était autre qu'une réécriture du Petit Poucet de Charles Perrault. Mais alors, quel était le but de Madame Dosnoy lorsqu'elle a entrepris ce travail ?
Alors, c'est assez difficile de savoir quel était son but. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que c'est une pratique, là aussi, très courante de circulation, de reprise, de citation, de référence intertextuelle. Elle réécrit, avec Finette Sandron, elle réécrit en fait deux contes. Elle réécrit à la fois le petit poussé, dans la première moitié du texte, ça c'est pour la partie Finette, et puis pour la partie Sandron, mais elle réécrit Cendrillon. Et ce sont deux contes de Perrault. Elle cite Perrault, d'ailleurs, hein, dans La Chatte Blanche. Alors, c'est difficile donc de connaître exactement cette intention. C'est une pratique courante, ça relève du jeu, d'une pratique de l'émulation, on s'échange des thèmes entre conteurs et conteuses. Ce qu'on peut remarquer, si on analyse le récit en quelques mots, on peut simplement se dire que le récit est féminisé, que l'aventure est transportée dans un univers aristocratique. Il est sorti de son univers de bûcheron. La mère de l'héroïne, c'est une reine très puissante, elle domine son mari, c'est elle qui va l'inciter à perdre ses filles, alors que chez Perrault, c'est le bûcheron qui convainc son épouse. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Finette, c'est une jeune fille qui ne va pas hésiter à tuer ses agresseurs, qui va pousser l'ogre dans le four, etc. Alors, elle se comporte après comme Cendrillon, mais elle reprend le pouvoir à la fin. Voilà.
Clémentine.
Oui, j'allais dire que la grande surprise, en somme, c'est quand même de comprendre que, initialement, les contes de fées étaient réservés plutôt aux adultes. Alors, à partir de quel moment le conte de fées, c'est pour les enfants ? Est-ce qu'on les réécrit à ce moment-là ? Est-ce qu'ils sont simplifiés dans le but d'être compris par les plus jeunes ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est la littérature de colportage qui s'en empare et qui va les simplifier. Vers la fin du XVIIIe siècle, ils sont réécrits, ils sont très mutilés, et alors que ceux de Perrault vont très souvent être gardés tels quels. Alors la littérature de jeunesse n'existe pas à l'époque, c'est vraiment à la moitié du XVIIIe siècle qu'on la voit apparaître et se développer dans les 30 dernières années du XVIIIe siècle.
Mais ce qui est un peu injuste, c'est qu'on connaît beaucoup plus Charles Perrault que Madame d'Aulnoy, alors qu'elle était la conteuse la plus publiée au XVIIIe siècle. Comment vous l'expliquez ? C'est parce que c'est une femme, ou parce que ses textes sont moins limpides, vous nous le disiez, que ceux de Charles Perrault ?
Oui, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux parce que c'est vrai que les femmes sont passées à la trappe assez souvent. Et c'est vrai que dès la fin du XVIIIe siècle, quand le cabinet des fées reprend tout l'ensemble des contes, les réédite, c'est ceux de Perrault déjà qui passent en tête. Alors oui, ces contes sont plus complexes, plus longs, ils sont ressentis comme étant précieux. Il y a des développements romanesques, de l'analyse psychologique, ce que n'ont pas les contes de Perrault. C'est cela qui, je pense, peut l'expliquer.
Merci beaucoup, Anne de France, de nous avoir raconté la jeunesse des contes de fées de Madame d'Aulnoy, qui sont d'ailleurs publiés dans la collection Folio, dans les éditions Gallimard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Exactement, mes amis. Est-ce que vous voudriez peut-être un petit indice sonore ?
Oui, volontiers.
Alors, écoutez ça.
Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux ?
C'est l'incendie à Rio.
La grande échelle, oui. Alors, on va parler de la création
des pompiers.
On va parler des pompiers.
Ah, voilà. Oui, la création des pompiers, c'était
1800.
Dumouriez. Et non, avant les pompiers et Napoléon, la première pompe à eau, c'était Dumouriez, le petit-fils du grand Dumouriez qui était le vainqueur de la bataille de Valmy.
Mais ce n'est pas du tout la question que je vais vous poser tout à l'heure.
Avant cet affrontement qui s'annonce houleux, je le sens, c'est Clémentine Portier-Casadema qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, si on parle de contes de fées, vous avez-vous choisi de prendre le contre-pied, ça vous ressemble, de nous raconter un écrivain qui a dépeint la réalité, qu'il a écrite aussi et l'a vécue. Une année terrible à son retour d'exil, Victor Hugo.
Ah oui, une année terrible. Après, vous savez qu'il a été 19 ans en exil. Donc quand il foule le sol de France pour la première fois après 19 ans, c'est en septembre 1870. Évidemment, il reçoit un accueil triomphal. Mais la ville de Paris souffre beaucoup déjà à l'époque d'ailleurs. Mais pas qu'elle, car car Victor Hugo, lui aussi, à ce moment-là, souffre énormément. Il y a eu des deuils en cascade autour de lui. 2 ans plus tôt, il a perdu son petit-fils Georges, qui est mort au bout de, enfin, en très bas âge, au bout d'un an. Et la même année, à Bruxelles, c'est sa femme qui s'éteint, emportée par une congestion cérébrale. Donc, vous voyez, 2 décès majeurs autour de lui qui sont compensés par la naissance de 2 autres petits-enfants, un autre petit Georges qui naît en 1868 et une petite Jeanne en 1869. Donc, quand vous avez récité dans votre jeunesse l'art d'être grand-père, eh bien, c'est Jeanne et Georges qui sont ces 2 petits-enfants tant chéris par Victor Hugo. Donc, il arrive à Paris, il est tout à la joie, à la fois de retrouver Paris, mais en même temps dans ses deuils récents. Sa joie est de courte durée parce que c'est maintenant Charles Hugo, son fils aîné, qui meurt soudainement à Bordeaux. Vous savez qu'il a déjà, de longues années avant, perdu sa fille Léopoldine. Donc vraiment, il a encaissé des peines familiales majeures et répété le malheureux Victor Hugo. Et d'autant que son fils aîné, qui meurt donc le 13 mars 1871 d'une embolie, avait 45 ans. On est alors au tout début du siège de Paris et bientôt la Commune. Donc la dépouille mortelle du fils de Victor Hugo arrive à Paris. 5 jours après sa mort, 18 mars 71, mais Paris est déjà en état d'insurrection. Donc tout au long du parcours que doit effectuer la dépouille de son fils jusqu'au Père Lachaise, la garde nationale présente les armes, mais on doit ouvrir des barricades pour laisser passer le cortège funèbre jusqu'au Père Lachaise. Ça a dû faire une impression incroyable. Et puis, juste à ce moment-là, 21 mars, le poète part pour Bruxelles parce que son fils a laissé des grosses dettes à Bruxelles et donc il doit aller régler tout ça. Donc il part avec sa Juliette Drouet, avec laquelle il peut vivre maintenant, puisque son épouse est morte, Alice, sa belle-fille, et les 2 enfants. Et il s'installe à Bruxelles, place des Barricades, dans la maison du défunt Charles. Et là, depuis Bruxelles, Victor Hugo suit avec angoisse les événements de Paris. Parce que quelques jours après le début de la Commune, il y a la répression de la Commune par les Versaillais. Et le gouvernement belge annonce officiellement que la Belgique n'accueillera aucun réfugié politique de la Commune. Alors Victor Hugo est indigné, bien sûr, parce qu'il vient de publier un poème intitulé « Pas de représailles ». Et il répond au gouvernement belge, dans les colonnes d'un journal, et il répond qu'il offre asile à tous les fugitifs au numéro 4 de la place des Barricades. Il pense bien sûr que le peuple belge sera avec lui, mais il se trompe, car tout au contraire, les Bruxellois viennent se masser en masse devant les fenêtres de Victor Hugo, en criant « Ah bah le brigand, mort à Jean Valjean !» Ça a été quand même très loin. On a jeté des pierres dans ses fenêtres. Plus grave, le 30 mars, vous voyez, c'est vraiment le mois de mars 71, et tous ces événements se déroulent très vite, le gouvernement belge prend un décret d'expulsion contre Victor Hugo, en joignant au sieur Victor Hugo, homme de lettres âgé de 69 ans, de quitter immédiatement le royaume avec défense d'y entrer à l'avenir. Hugo et sa famille doivent donc à nouveau partir. Et voilà qui va vous toucher, Stéphane, parce que où vont-ils ?
À Paris.
Ils vont à Vianden, ville du Luxembourg sur le fleuve Our, où le poète était déjà passé plusieurs fois. Et là,
Toujours la maison de Victor Hugo à Vianden.
Elle se visite, il n'y a rien dedans spécialement. Rien. Enfin, ils y sont en tout cas très bien accueillis. Victor Hugo, il loue 2 maisons. Et c'est à Vianden qu'il écrit ce fameux livre, L'année terrible, un recueil de poèmes où le souvenir de ces événements tragiques se mêle à un appel à l'indulgence et à la paix. Il proteste contre la répression sanglante de la Commune. Il écrit des vers, notamment pour la Vierge Rouge, la sauvage petite rêveuse, c'est Louise Michel, bien sûr. Et puis, il y a une autre femme qui a beaucoup influencé ce travail. On ne sait pas exactement quelle a été sa relation avec elle, d'ailleurs. Une jeune Française de 17 ans, réfugiée de la Commune et déjà veuve, Marie Garraud, dont le mari a été tué. Plusieurs des plus beaux poèmes qui composent L'année terrible sont issus de sa dramatique expérience. Alors, voyez-vous, Hugo ne reviendra finalement à Paris que le 27 septembre, depuis le Luxembourg, et l'accueil ne sera pas aussi favorable parce qu'il s'entête à obtenir une amnistie pour les communards, et ça, c'est pas d'actualité. Et finalement, son bouquin, L'année terrible, va pas recevoir du tout l'accueil auquel il s'attendait. Heureusement, à l'Odéon, on a repris avec succès Ruy Blas, donc ça fait passer la pilule. Et dans les années qui suivent, il a une nouvelle tragédie puisqu'il perd François-Victor, le dernier de ses enfants. C'est quand même un père accablé par le deuil, Victor Hugo. Mais son activité, malgré tous ses deuils à répétition, va demeurer stupéfiante. Il va encore publier, avant sa mort, des ouvrages par dizaines. À aucun moment chez lui n'est perceptible la fameuse usure du temps. Tout Paris, le tout Paris des arts et des lettres et de la politique se bouscule pour l'approcher. Il sera élu au Sénat en 1876. Ses interventions, ses discours stupéfient ses contemporains. Et bientôt, la France entière fêtera ses 80 ans. Alors, ce qui est extraordinaire, pour conclure, c'est que si vous allez sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale, vous pouvez trouver le manuscrit des années terribles, c'est très beau de voir ça, et on peut lire en exergue sur le manuscrit « Fin du vieux monde » et par ailleurs « Nous avons la République, nous aurons la liberté ». Quelle fraîcheur d'esprit, quel engagement, c'est bluffant.
Merci Clémentine. Et pour en découvrir plus encore, on vous recommande donc l'exposition « L'année terrible 1870-1871 ». Œuvre poétique au retour d'exil qui se tient actuellement et jusqu'au 5 mars prochain au musée Victor Hugo de Rives-en-Seine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. C'est pour le quiz Born to be Alive.
Oh, je vous en prie, contrôlez-vous, Stéphane. En plus, il y a des caméras dans le studio. Ça serait dommage de gâcher une fin de carrière aussi exemplaire.
Une fin de carrière, je vous remercie.
On ouvre avec une question pour vous, justement, Stéphane. C'est au XVIIe siècle que l'on trouve pour la première fois par écrit le mot « noise ». Il est utilisé dans l'expression « chercher des noises ». La Fontaine lui-même utilise le mot « noise » en synonyme de dispute. Ça vient de « noix », car parfois, on se disputait les meilleures parts de ce fruit. Vrai ou faux ?
Intuitivement, je dirais non.
Vous ne pensez pas que « noise », ça non. Vient du fruit, la noix ?
Non, vous croyez, ça ne viendrait pas plutôt du mot « ennui », peut-être, ouais. Non ?« Ennoyer ouais. »,« ennuyer ». Alors que les noises, ça fait un peu les noisettes, quoi. Vous cherchez les petits détails, vous cherchez la petite bête, mais je pense que ça vient plutôt d'un vieux mot français.
Un vieux mot français, d'après vous ?
Non, je sais pas.
Et vous, Stéphane, question après
On a lu ça, hein. Moi je me souviens en tout cas l'avoir lu, mais dire « Ah tiens, c'est ça les noises !» Et puis évidemment,
j'ai oublié.
On a oublié,
on est tous pareils.
Non, c'est vos questions à la noix, ça...
Bon, attention, respectez-moi s'il vous plaît, hein.
Non, je dirais non.
Vous diriez non, on vérifie.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. Alors, on va essayer de préciser la pensée de Clémentine. Vous pensez que c'est un vieux mot français. En fait, ça vient du latin. C'est nausea. Nausea. Mmh. Noise, c'est de l'ancien français qui signifie le malaise quand il y a du vacarme et des échauffourées.
Nausée, ça vient de là.
De nausea.
C'est ça ?
Oui.
Hein ? Ouais, c'est exactement, ça vient de nausée. Une question pour Clémentine à présent. Clémentine, j'ai envie de vous faire rêver. Partons pour Péluse.
Oui.
La cité n'existe plus, mais c'est aussi ça, historiquement vôtre. Hein, un voyage dans le rien, où le savoir vient tout créer. Bon, peut-être que je m'en
vais. C'est beau qu'il a dit ça, c'est pas vous. Hein.
Excusez-moi. Ce que je voudrais juste savoir, c'est est-ce que quelqu'un a un peu d'affection pour moi dans ce studio ? Juste.
Moi.
Merci.
Allez pas quémander les points, vous, là.
Oh, non, mais...
Non, mais je...
Allez, Péluse.
Vous, de toute façon, vous en foutez, vous êtes déjà perdu, vous. Donc, Péluse était donc une cité de la Basse-Égypte. On parlait à l'époque de boisson pélusienne. Mais c'était quoi la boisson pélusienne ? De la bière, du vin ou du poison ?
Ah, c'est intéressant. Les Égyptiens boivent de la bière. Oui. Donc, le plus logique, ça serait la bière. Péluse, ça devait être un genre de Belgique égyptienne où on buvait beaucoup de bière. Je réponds la bière.
La bière, la Belgique égyptienne. On vérifie.
Vous avez gagné !
C'était de la bière. On appelait aussi cette boisson le vin d'orge. On l'obtenait avec de l'orge germée et fermentée, produit entre l'Égypte et la Palestine. La boisson était importée en Grèce. Aristote et Sophocle en raffolaient. C'est vrai que c'est plus facile de philosopher quand on a un petit coup dans le nez. Une question pour vous, Stéphane.
Vous en savez quelque chose.
Ouais. Mais comme ça, vous l'attaquez.
On est d'accord, c'est une phrase, une vanne.
Oui,
bien sûr. Agression totale. Mais vous savez qu'il y a des témoins, vous êtes enregistré, Clémentine.
Ah non, je ne savais pas, je l'ignorais.
Ah, ça va être tellement, tellement joyeux de vous faire perdre. Est-ce que vous aimez les sapeurs-pompiers, Stéphane?
Beaucoup.
Surtout leur grande échelle.
Ça, on ne veut pas tout savoir. Pompier vient de pomper, car on pompait l'eau. Sapeur.
Oui.
Qu'est-ce qui vous dérange dans ce que je viens de dire ?
Non, oui.
Écoutez, on reprend les bases. Hein.
Allez-y.
Et sapeur, ça vient d'où ?
Les sapeurs, c'est ceux qui sapent les fondations des citadelles que l'on entreprend de conquérir.
Voilà, sa peur vient du fait que parfois, au Moyen-Âge, à la place d'éteindre un incendie, on n'avait pas d'autre choix que de saper, c'est-à-dire détruire les maisons. Avant sapeur-pompier, quel mot était utilisé ? Les gardes-pompes ? Oui. Les vigiles du feu ? Ou les surveillants-pompiers ?
Les gardes-pompes.
Les gardes-pompes, je veux bien croire, parce que les premiers pompiers, c'était ça. C'était...
Excusez-moi, Stone et Chardin, vous jouez ensemble tous les deux là ?
Non, alors les gardes-pompes, oui. Et c'est les, et la première
vous avez coupé dans votre démonstration.
La première pompe, elle est venue de Hollande, n'est-ce pas, Stéphane ?
Oui. Et c'est en fait, c'était, ils avaient des pompes à eau et ils balançaient de l'eau avec leur avec cette lance.
Cette lance. Eh bien, écoutez, hein, je pense qu'on est bien parti, mais on va vérifier ça quand même.
Vous avez encore gagné.
Bravo, les gardes-pompes. Napoléon Ier est contrarié que les gardes-pompes n'aient pas maîtrisé l'incendie de l'ambassade d'Autriche.
Exactement, après son mariage avec Marie-Louise.
Exactement, en septembre
1911. 108 morts, non, c'est pas ça, c'était terrible, hein, c'était un terrible incendie.
Et donc, en septembre 1811, il change sa garde impériale par décret de s'occuper désormais du feu. Ils deviennent les sapeurs-pompiers. Est-ce que Clémentine va égaliser ou, comme je l'espère, va-t-elle se planter ? Elle est tellement désagréable aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Restons avec les militaires. L'expression « s'attirer des bricoles » vient du jargon de nos amis défenseurs de la nation. Mais c'était quoi ces bricoles ? Des maladies ? Un champ militaire grivois pour être précis ? Ou une catapulte ?
Ce serait drôle que ça soit des petites maladies vénériennes. Ça tire des bricoles. Hein,
alors.
Ça tire des bricoles. Alors, la bricole, c'était quoi ?
Pas une catapulte.
Une maladie, un champ militaire ou une
c'est
catapulte ?
C'est le trébuchet, j'ai jamais entendu une bricole pour une catapulte. Donc, écartons la catapulte. Il reste la maladie vénérienne.
Non, la maladie vénérienne, c'est juste.
C'est
ce qui travaille, Stéphane. Mais non, c'est juste une maladie.
Des maladies.
Ça tirait des maladies et le dernier.
Un champ militaire, grivois.
Bricole, un champ militaire.
Grivois, pour être précis.
Je dirais la maladie.
La maladie ? Vous êtes sûr de vous ?
Non.
Non ? J'espère tellement que vous gagnez. On vérifie.
Ça se voit.
Vous avez perdu.
Oh, comme c'est dommage.
Ah non, je ne savais pas.
Et alors,
les jeunes disent karma. Hein. Vous avez été désagréable avec moi. La bricole, c'était une catapulte.
Ah, ça c'est étonnant, vous avez déjà entendu ça ?
Non, jamais.
Ben, si, c'était une catapulte qui arrivait à projeter des objets de plus d'une dizaine de kilos. Quand on était trop près, on pouvait s'attirer des bricoles car on était à la portée de l'appareil.
C'est une toute petite catapulte, parce qu'une dizaine de kilos, c'est pas grand-chose.
Voilà, exactement.
Mais en tout cas, marrant ça, la bricole. Bon,
s'attirer des bricoles,
c'est
être à portée de la
catapulte. J'accepte avec humilité ma défaite, parce que je m'en veux de ne pas avoir connu cet instrument.
Écoutez, c'est un triomphe de Stéphane Bern.
Oh, faut pas exagérer non plus.
Si, ça me fait plaisir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez, Yvan Jacob et nos dames du jour qui ont fait des contes de fées. Après Marie-Catherine d'Aulnoy, qui fut la première, je vous raconte celle qui a attendu la fin de sa vie pour en publier, la conteuse inattendue, George Sand. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter une chanteuse qui compte dans le paysage musical français et qui a écrit et chanté des contes aussi.
Oui, Mylène Farmer. Des contes dont on ne comprend pas toujours bien ce qu'ils racontent. Voilà. L'histoire d'une fée, c'est le titre de la chanson.
Une fée, c'est ?
Non, une fée. C'est une fée.
Ah, en effet, on ne comprend pas bien ce qu'elle dit, oui.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle reste l'une des plus grandes écrivaines de son temps dont l'histoire a retenu les romans. Mais celle qui s'est habillée en homme et s'est battue pour les femmes a écrit aussi pour les enfants. Libre et passionnée dans sa jeunesse, la dernière œuvre de sa vie fut le recueil de contes destiné en premier à ses petites filles bien-aimées. Je vous raconte maintenant l'étonnante George Sand. Nous sommes en 1874. À désormais 70 ans, George Sand vient d'achever l'écriture de L'éléphant blanc. Il ne s'agit pas là d'un roman comme elle y est habituée jusqu'ici, mais bien d'un conte qu'elle lit à deux privilégiés, ses petites filles Lolo et Titite. Titite qui bâille et semble sur le point de s'endormir, mais dès que le récit commence, la fillette écoute avec beaucoup d'attention sa grand-mère leur raconter l'histoire de son héros, Monsieur le Chien, qui se rappelle de ses vies antérieures. J'étais fleur, une jolie fleur blanche délicatement découpée, pendant sur le rebord d'une source. Monsieur le Chien se souvient aussi s'être réincarné en pierre, en grenouille ou en papillon. L'un de ses interlocuteurs pense même avoir été un éléphant blanc dans les jungles de la presqu'île de Malacca. Le récit fini, Titit, qui dit avoir aimé l'histoire, se met à sangloter. George Sand s'inquiète. Est-elle malade? S'est-elle fait mal? Non, c'est la mort de l'éléphant à la fin du conte qui brise son petit cœur. Si elle n'aime pas voir sa petite fille pleurer, sa réaction vient en tout cas récompenser George Sand de tous ses efforts. Pour le conte de l'éléphant qui deviendra le chien et la fleur sacrée, une fois publié, elle a rassemblé toute une série de documents sur l'Inde et mené des recherches très précises sur la flore et l'ornithologie. En matière de conte comme de roman, l'écrivaine ne prend pas la littérature à la légère. Aurore Dupin, la future George Sand, est née en juillet 1804 à Paris. À la mort de son père, l'aristocrate Maurice Dupin de Franqueuil, dans un accident de cheval, la petite Aurore est confiée par sa mère, Sophie Victoire de Laborde, à sa grand-mère, au château de Nohant, dans le Berry. Éduquée pour devenir une jeune dame rangée, elle se marie au baron Casimir Dudevant, avec qui elle a deux enfants, Maurice puis Solange. Cette union est pourtant un échec. Le baron ne s'intéresse ni à la littérature, ni à l'art. Son épouse s'ennuie, finit par s'enfuir. À 27 ans, Aurore Dupin s'installe à Paris où elle affirme son indépendance. Elle fume le cigare et prend l'apparence d'un homme en arborant pantalon et redingote pour fréquenter les théâtres, les cafés, mais aussi la salle de rédaction des journaux. Oui, pour vivre en femme libre, Aurore Dupin doit désormais travailler et l'écriture lui apparaît rapidement comme la voie du salut. Des amis Berrichon lui présentent Henri de la Touche, directeur du Figaro, qui n'est à l'époque qu'un petit journal satirique. Aurore se voit invitée à y publier des nouvelles. Elle s'essaye aussi au roman « Rose et Blanche », écrit avec son amant, le romancier Jules Sandeau. Le livre connaît une certaine popularité, assez pour qu'un éditeur en commande un autre. Aurore propose cette fois sa première œuvre personnelle, « Indiana », qu'elle publie sous le pseudonyme de George Sand. Et c'est un succès. Dans son petit logis du quai Saint-Michel, elle reçoit des visites et s'amuse des quiproquos suscités par son pseudonyme masculin. « Monsieur George Sand, c'est ici. Où est-il ? Devant vous. Quoi, madame ? C'est vous qui êtes Monsieur George Sand ? Oui, c'est bien elle. » Aurore Dupin, du devant, devient définitivement George Sand. Sans Jules Sandeau, qu'elle finit par quitter, George Sand démarre une légendaire liaison avec Alfred de Musset qui lui inspirera le roman autobiographique « Elle et lui ». Puis elle vit une longue histoire d'amour avec Frédéric Chopin. Le compositeur tombe constamment malade et peu porté sur la chose, ce qui fait dire ou plutôt écrire à George Sand « Il y a 7 ans que je vis avec lui comme une vierge ». L'abstinence semble stimuler la créativité. Tout au long de son existence, elle écrit sans discontinuer. Des pièces de théâtre, une autobiographie, des essais, des articles et une centaine de romans dont « La mare au diable » et « La petite fadette » inspirée de sa région, son Berry bien-aimé. Profondément républicaine, Sand fonde en 1848, après l'abdication du roi des Français Louis-Philippe Ier, le journal « La cause du peuple » et le « Bulletin de la République ». Engagée dans la lutte pour l'égalité des genres, la romancière encourage également les femmes à s'émanciper. George Sand est aussi une mère de famille attentionnée. Devenue adulte, sa fille Solange lui cause bien du tourment en épousant un homme qu'elle n'approuve pas. Avec Maurice, son fils aîné, les rapports sont heureusement bien différents. Il vit avec elle et George Sand s'émeut lorsqu'il la quitte quelques mois pour un voyage à bord du yacht du prince Jérôme Napoléon. Au retour de Maurice, sa mère se déclare écrasée de soulagement, puis de joie lorsqu'il lui annonce son mariage, qu'elle a gentiment incité, dit-on, avec Lina, la fille du graveur Luigi Calamatta. C'est à Nohant qu'en janvier 1866, Lina et Maurice deviennent les heureux parents d'une petite fille prénommée Aurore en l'honneur de sa grand-mère. 2 ans plus tard, une deuxième fillette, Gabrielle, voit le jour. Dans le château familial, les journées s'écoulent paisiblement. De vieux amis comme Gustave Flaubert ou Alexandre Dumas, fils, viennent régulièrement lui rendre visite. L'après-midi se passe en quête de plantes, de pierres et d'insectes rares. On donne aussi des spectacles de marionnettes. Et le soir, George Sand écrit. De temps à autre, elle se rend à Paris au salon de peinture, au théâtre ou au bon marché, pour acheter des pantalons et des jupons à ses petites filles. Lolo et Titite, comme elle les appelle, grandissent. Leurs parents se chargent de leur éducation et George Sand, qui se renseigne sur les méthodes pour apprendre à lire, regrette le peu de récits existants pour les enfants en bas âge. À 68 ans, Elle imagine alors une dizaine de contes merveilleux inspirés de la nature. Dans le géant Yeus, les montagnes s'animent, et dans la reine Coax, ce que disent les fleurs, les grenouilles et les fleurs conversent. Leur langage satié peut surprendre pour un livre destiné aux plus jeunes, mais George Sand se refuse à employer une parole enfantine. Quand un mot est difficile, elle l'explique, mais elle ne le supprime pas. Soucieuse de l'exactitude des termes employés, George Sand relit ses contes parfois à haute voix avec ses petites filles et corrige. Les retouches portent aussi sur la division en chapitres. L'écrivain coupe son texte au ciseau et ajoute une feuille pour marquer le début de chaque chapitre. Une étape très importante, car certains contes paraissent sous forme de feuilleton dans la presse avant d'être édités en recueil sous le titre « Contes d'une grand-mère » en 1873. Un second volume paraît en 1876. Il s'agit hélas du dernier livre publié par George Sand, de son vivant évidemment. George Sand pousse son dernier soupir le 8 juin 1876. La veille, elle avait réclamé Aurore et Gabriel auprès d'elle pour échanger quelques mots affectueux. Les derniers d'une grand-mère conteuse à ses deux petites filles.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de George Sand, nous avons le plaisir d'accueillir une professeure de littérature qui connaît parfaitement ses écrits. Bonjour Christine Planté.
Bonjour.
On l'évoquait tout à l'heure à propos de Madame d'Aulnoy. À l'origine, les contes n'étaient pas destinés aux enfants. Ceux de George Sand sont écrits pour ses petites filles. Les contes ont changé de lecteur donc au XIXe siècle. On se situe donc précisément au moment de l'essor de cette littérature jeunesse.
C'est tout à fait vrai. Le XIXe siècle est un moment où l'on prend une conscience de plus en plus vive de l'importance de la jeunesse, à la fois dans la vie d'un individu et dans la vie des sociétés. Et c'est quelque chose à quoi George Sand est extrêmement attentive. C'est donc un moment où vont se développer les écrits pour la jeunesse de toutes sortes, des écrits pédagogiques, puis peu à peu des périodiques spécialisés et des contes. C'est aussi un secteur, dirait-on aujourd'hui, où les femmes sont encouragées à écrire, alors que c'est un moment où on est encore souvent hostile vis-à-vis des femmes écrivains. On pense qu'elles sont bien dans leur rôle lorsqu'elles écrivent pour la jeunesse. Ce n'est toutefois pas cela, principalement, qui amène Sand à écrire. Elle ne vient à des récits pour la jeunesse que tard dans sa vie. En revanche, toute sa vie, elle a été une conteuse, pas seulement pour les enfants, et elle a été avant même une lectrice et surtout une auditrice de contes. Et lorsqu'elle se met à écrire, elle reste fidèle à ses émotions. Elle reste une conteuse, y compris dans ses grands romans pour adultes, quels qu'en soient les sujets. Elle s'adresse toujours à un public avec le souci de retenir et d'être entendue. Et c'est une des grandes forces de George Sand, c'est qu'elle est très soucieuse de s'adresser à quelqu'un, les deux petites filles qu'elle a en face d'elle, en tenant compte de leur âge, et en même temps de pouvoir parler à tous, et en effet... Par la suite, ces contes ont trouvé des lecteurs de tous âges.
Mais la production littéraire de George Sand est dense et plurielle, puisqu'elle a écrit des romans, une autobiographie, Histoire de ma vie, une correspondance aussi, des articles de presse. En tant que femme, est-ce qu'elle a pu être réduite à certains aspects de son œuvre ? Parce qu'on découvre chaque fois l'écrivaine de contes pour enfants et... est un aspect moins connu, par exemple.
C'est un aspect moins connu. On l'a tout de même souvent assimilé à l'écriture pour enfants, mais non pas en raison de ses contes, mais en raison du cycle des romans qu'on appelle souvent champêtres, oui. Alors que sa production est infiniment plus vaste. Si on ne prend que ses romans, vous avez dit qu'elle en a écrit une centaine, en effet, les deux gros volumes qui viennent d'être publiés il y a peu de temps dans la collection de la Pléiade n'en donnent qu'une petite partie. Il n'y a même pas le plus grand d'entre eux, Consuelo, et c'est déjà deux gros volumes. Donc c'est une production extrêmement diverse. Et bien entendu, les lecteurs ou lectrices sont tentés de la ramener à la fois à ce qui les touche le plus ou leur convient le mieux, c'est bien normal, mais aussi à ce qu'on attend des femmes à son époque. Et donc, après la première partie de sa vie, après Indiana que vous avez évoqué, qui est constituée de romans évoquant surtout la douleur des femmes dans le mariage, On lui a reproché de venir à d'autres sujets, des sujets plus politiques, plus sociaux, on dirait des sujets d'intérêt général. Et donc parfois, les contemporains ont trouvé que là, elle réussissait moins. Alors qu'elle était tout à fait elle-même et elle refusait de se faire enfermer dans le rôle des femmes.
Jean-Luc ?
Bah justement, comment George Sand traite les personnages féminins dans ses contes ? Est-ce qu'elles sont aussi rebelles qu'elle ?
Alors, elles ne sont pas aussi rebelles qu'elle si on veut enfermer George Sand dans une forme spectaculaire de rébellion, celle que l'histoire a volontiers retenue, le cigare, le port du pantalon, la liberté de relations amoureuses, mais elles sont profondément attachées à ce qu'elles sont, à ce qu'elles croient, fidèles à devenir elles-mêmes, fidèles à leurs désirs, comme les héros masculins. D'ailleurs, c'est ce qui est frappant dans ces contes où le genre des personnages se répartit de façon à peu près équilibrée, c'est que ces jeunes héros ou héroïnes se voient profondément encouragés à devenir eux-mêmes, malgré les doutes qu'ils peuvent avoir, malgré l'hostilité, les doutes de l'entourage. Et bon, cela, c'est très conforme à la tradition des contes et au schéma des contes, hein, qui rapporte des initiations ou des apprentissages. Mais George Sand, de ce point de vue, s'adressant à ses petites filles, les invite à grandir à travers des modèles empruntés à des filles ou à des garçons. Alors ensuite, les lecteurs et lectrices que nous sommes aujourd'hui peuvent trouver que les chemins empruntés ou les activités proposées sont encore un petit peu genrées quand on voit une petite fille dans le nuage rose apprendre à filer, alors que des petits garçons iront plutôt vers des activités plus héroïques ou plus créatives. Néanmoins, dans le long et très bon conte qu'est le château de Pique Tordue, on voit une petite fille devenir artiste, en dépit de caractère un petit peu hésitant de son père au départ. Et là, on voit que George Sand projette beaucoup de sa propre histoire dans cette affaire.
Yvan ?
Oui, moi je me demandais comment ces contes d'une grand-mère sont accueillis par les contemporains de George Sand. Qu'est-ce qu'en dit la critique à l'époque ?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de réception critique contemporaine. Ce qu'on peut imaginer, c'est que ce sont surtout les proches de Sand qui la connaissaient, qui ont dû être très sensibles à ces contes, y compris en raison de leur dimension familière, de leur insertion dans un univers proche. Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de la façon d'être et d'écrire de George Sand. Elle ne sépare pas les relations familières et la parole à tous. On passe du théâtre de marionnettes de Nohant au grand théâtre de Nohant, puis à des pièces qui ont un succès remarquable à l'époque. C'est aussi quelque chose qu'on a oublié, à quel point George Sand a écrit pour le théâtre et ses pièces ont été appréciées. Donc on peut imaginer de la même façon que les plus proches reconnaissent dans ses contes un monde familier.
Merci Christine Planté de nous avoir raconté cet aspect plutôt méconnu de l'œuvre de George Sand. Votre dernier livre, Masculin-féminin dans la presse du 19e siècle, co-dirigé avec Marie-Ève Terranti, est disponible aux presses universitaires de Lyon. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Yvan Jacob, on réunit trois dames qui ont fait des contes de fées. Après Marie-Catherine Launoy et George Sand, vous nous racontez, Jean-Luc, une chanteuse qui compte, Mylène Farmer.
J'ai bien conscience qu'en vous parlant aujourd'hui de Mylène Farmer, comme vous dites.
Ou Mylène Farmer.
Farmer, mais... peut-être, oui, bon, plutôt. Mais Farmer, j'aime bien, j'aime bien. Là, je vais m'attaquer à une mégastar, une idole, une icône de la chanson française et aussi d'une importante partie de la communauté gay. Communauté que j'aime et que j'embrasse, mais qui, je le sais, a le pouvoir de me transformer en liquide à paupers si je dérape un peu trop. Car oui, pour vous donner une idée, hein, Mylène Farmer, en termes d'enthousiasme, chez les hétérosexuels, c'est un peu l'équivalent du drone, des bijoux Pandora ou du tatouage tribal. On est sur du très très haut niveau. En tout cas, soyez assurés, chers fans de Mylène, que ce portrait sera sans contrefaçon, sans logique, et même si à l'instant X vous me sentez désenchanté ou que mon cœur lâche, dites-vous bien que Mylène s'en fout et que c'est une belle journée. Promis, ainsi soit-je, voilà, l'âme tamgramme. Vous voyez, je connais mon sujet. Hein.
Ouais.
Hein, impressionnant.
C'est un pot pourri de tous ces titres.
Exactement, ouais. vous avez joué le truc. Mais ce que je connaissais, moi, en tout cas, et que j'ai découvert en fouillant dans les différentes biographies de Mylène, Au passage, toute écrite à la plume trempée dans le sang de jeunes éphèbes aux dermes opalescents et réunis dans une crypte au cœur des catacombes de Paris. Oui, j'aurais pu aussi chercher sur Google, mais quand je mène une enquête, moi, c'est à 100%.
On se ressemble sans...
Non, là, ça, c'est un titre de chanson de Johnny, pas de Mylène, hein. Je savais qu'ils aimaient plutôt les drones en régie. Bref, je disais que ce que j'ai découvert, c'est qu'en plus de vendre plus de 30 millions d'albums à travers le monde depuis le début de sa carrière et de remplir des stades lors de concerts pharaoniques, Mylène a aussi eu le temps de se lancer dans l'écriture et l'illustration d'un conte, appelé Lisa Lou et le conteur. Mais attention, hein, on est plus proche de Tim Burton que de Walt Disney. D'ailleurs, plus précisément, un conte philosophique pour adultes. Non Stéphane, ça ne veut pas dire qu'il est disponible sur OnlyFans. Ça veut dire que certaines notions abordées sont plus accessibles quand on est une grande personne, dont les rêves d'enfants ont été brisés par la réalité de la vie, comme la maladie, la mort, les impôts ou des reprises de Nougaro par Gad Elmaleh. Mais nous y reviendrons dans quelques instants, car je n'ai pas passé une nuit entière dans les catacombes pour ne pas vous parler plus amplement de la vie, de la carrière, de celle qu'on surnomme l'ange roux, la déesse à la voix cristalline ou tout simplement mémère, quand elle sort comme tout le monde sa poubelle jaune en charentaise. Au Moon Boots même, car Mylène voit le jour au pays du grand froid et de la chemise à carreaux en 1961, le Canada.
I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras.
Je savais que ça allait vous plaire. Hein. Gilles Vigneault, c'est votre passion. Ouais, oui. Elle s'appelle alors Mylène Jeanne Gauthier et elle grandit à Pierrefonds, dans la banlieue de Montréal. Elle passe son enfance à disséquer des animaux et ses camarades de classe. Et à 3 ans, elle a déjà lu plusieurs fois Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Enfin, c'est ce que je m'imagine. Après cette année passée de l'autre côté de l'Atlantique et une overdose de sirop d'érable et de Fabienne Thibault, Mylène et sa famille regagnent la France, plus précisément la banlieue parisienne. Elle apprend le théâtre concours Florent, enchaîne des petits jobs de mannequin publicitaire et se nourrit exclusivement des larmes de ses amis et de sa famille. Elle est mince et très hydratée. Tout commence vraiment au début des années 80, quand les jeunes compositeurs Jérôme Dahan et Laurent Boutonnat écrivent « Maman a tort ». La chanson s'inspire de la vie de l'actrice américaine Frances Farmer, entraînée de force par sa mère et qui a fini lobotomisée. Mmh. Ah oui, on est loin de la merguez partie. Hein. Mmh. Mais les mecs y croient et se lancent à la recherche de l'interprète idéal. Et ça tombe sur qui ? Bah sur Mimi, évidemment. Boutonnat se souvient. Ça a été elle tout de suite. On aurait juré qu'elle sortait de l'hôpital avec ses cheveux longs, à la limite de la psychose. Voilà, ça c'est du compliment. Hein. T'as l'air d'une folle, je te veux dans mon équipe. Bon, la voix, c'est pas son atout premier à Mylène. Hein. Ah, attention, je suis pas en train de dire qu'elle chante mal. Au contraire, je dis juste que c'est pas une chanteuse à voix comme Lara Fabian ou Vincent Niclot. Et c'est pas grave. D'ailleurs, le saviez-vous ?
Vincent Niclot n'est pas une chanteuse à voix.
Mais il a une belle voix.
Oui, mais...
D'ailleurs, le saviez-vous ? Le timbre de Mylène, unique, est à la limite d'une fréquence seulement perceptible par les animaux, les militaires de l'OTAN et les prothésistes angulaires du sud de la France. Ah, 2 secondes. Ah, ben voilà, je viens de recevoir mes premières menaces de mort. Donc je présente mes excuses aux prothésistes angulaires qui nous écoutent. Vive le dissolvant et les French manucures. Dès la sortie du single Libertine et de son clip provocateur dans lequel Mylène apparaît nue, c'est la folie. Et 6 mois de squat en tête du top 50.
Je suis Libertine.
Vous pouvez dire ça plus fort, Stéphane ? Je suis une catin.
Non, ça risque d'être revenu contre moi, ouais, plus jour du jugement dernier.
Elle enchaîne les hits, pourvu qu'elle soit douce, Tristana, Je t'aime, Mélancolie, Sans logique, À quoi je sers, et bien sûr, l'incontournable, Sans contrefaçon.
C'est là où il y avait le clip avec la cravache.
Exactement. Okay. Non, non, ça c'est Libertine. Ça.
Ah, ça c'est Libertine. Ouais.
Souvenir ému.
Souvenir ému, mon enfant.
Et calmez-vous, Stéphane. Refermez cette braguette, on sait que vous êtes un garçon. Mylène étonne, brouille les pistes, suscite questions et rumeurs. Et si on en sait peu sur sa vie privée, dort-elle vraiment dans un cercueil ? A-t-elle une carte de fidélité chez Maison du Monde ? Alors, on peut affirmer sans se tromper que la vie professionnelle de Mylène est un exemple de travail, de créativité et de perfectionnisme. Il est alors tout naturel que Mylène se soit investie avec passion dans la création de son premier livre et conte philosophique, Lisa Lou et le conteur. De quoi ça parle ? De Lisa, une jeune fille qui vient de perdre sa mamie et qui devient copine avec Lou, un personnage imaginaire sorti de sous son lit. Avec lui, elle va, je cite le résumé officiel de Wikipédia, découvrir la littérature, faire des rencontres et surtout faire connaissance avec une certaine dureté de la vie. Bon, je ne l'ai pas lu, mais quelque chose me dit qu'on n'est pas sur du 100% feel good. Il faut croire qu'une bonne partie d'entre vous est sous antidépresseur, car l'ouvrage S'écoule comme a plus de 100 000 exemplaires.
Ah ouais.
Ah ouais, énorme. C'est Mimi qui assure elle-même les illustrations, simples, épurées, contrôlant une fois de plus jusqu'au bout la façon dont elle nous entraîne dans son univers. Un univers bien ancré dans son réel à elle, car l'inspiration pour ce conte viendrait de sa nièce, prénommée Lisa, et de Jean-Loup, son grand frère, tristement disparu dans un accident de voiture en 1996. Je vous laisse sur sa note guillerette selon les fans de la chanteuse, anxiogène selon le reste du monde. Et même si les contes de fées n'ont pas toujours de fin heureuse, dites-vous que pour quelques euros supplémentaires, un salon de massage peut vous en proposer une. La voilà, la réalité de la vie.
Bien, merci, c'est un appel. Une belle journée, je vais me coucher.
Voilà, c'est très optimiste.
Au revoir.
Bientôt.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Allez, il est l'heure de dire au revoir à nos dames qui ont fait les contes de fées pour retrouver deux chroniqueurs qui nous comptent l'histoire avec talent. David Castelopez, vous nous racontez les origines du pétrole.
Ouais, pétrole. Substance pas cool, mais substance utile.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle mode avec vous, Ivan Jacob. Ça s'est passé dans le passé. On remonte au premier temps de la course aux étoiles à la fin des années 50 pour évoquer une histoire aussi incroyable que méconnue, le rôle de l'entreprise de soutien-gorge Playtex dans la conquête de l'espace.
Et oui, on remonte au premier temps de cette course à l'espace. Et au premier temps de cette course à l'espace, eh bien c'est l'URSS qui gagne. Entre 1957 et 1961, les soviétiques ont envoyé pêle-mêle un satellite, un chien et même Yuri Gagarin dans l'espace. Les États-Unis trépignent de rage et John Fitzgerald Kennedy n'a plus qu'une seule obsession, enfin presque, expédier un Américain sur la Lune. Il sait qu'une seule petite image d'astronaute avec un drapeau américain marquera l'histoire à tout jamais et surtout qu'elle inscrira comme ça sur les budgets de la NASA et qui va ordonner à des gens de rester dans leur bureau 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Pour marcher sur la Lune, il faut absolument de nouvelles combinaisons. Celles qu'on utilisait jusque-là permettaient de rester en vie, et ça c'était déjà pas mal. Mais c'était comme des petites atmosphères portables que les astronautes comme ça trimballaient autour d'eux, presque comme des boîtes, c'était très rigide. Et le problème, c'est qu'on pouvait rien faire dedans. Alors qu'avec Apollo 11, et ça c'est nouveau, les astronautes doivent pouvoir faire des choses, comme par exemple plier leurs genoux et aussi bouger leurs bras, pour faire tout un tas de trucs d'astronautes, comme par exemple ramasser des cailloux lunaires.
Et c'est là qu'intervient Playtex.
Oui, Playtex appartient à l'International Latex Company. Fondée au début des années 30 par un entrepreneur russe immigré aux USA, il s'appelle Abraham Spanel. Et là, je suis obligée de vous faire un petit point latex, mais ça ne va pas durer trop longtemps. Au début du XXe siècle, la production de latex explose avec l'essor de l'automobile, mais les pneus deviennent de plus en plus résistants. On a aussi appris à mieux les réparer et la bulle du latex explose, sans mauvais jeu de mots. Ils font donc trouver de nouveaux débouchés sur ce marché. Et notre super start-upper, Abraham Spanel, a une idée. Dans l'Amérique en crise des années 30, il voit que l'industrie vestimentaire est celle qui résiste le mieux et il se dit... Je vais faire des vêtements en latex, notamment pour les enfants, des couches, des bavoirs, c'est waterproof, c'est élastique, c'est sans couture et ce sera super. Et après la guerre, le new look de Dior impose le retour d'une taille très fine, mais les femmes ne veulent plus porter des corsets comme avant la guerre, alors elles vont mettre des gaines. Et cette mode, bah, c'est une super aubaine pour Spanel qui va vendre plein de gaines et de soutien-gorge à base de latex, qui sont donc beaucoup plus souples que des corsets. Et là, vous allez me dire...
Ok, mais quel rapport avec les combinaisons spatiales ?
Eh bien, sachez Stéphane que pendant la guerre, pour participer à l'effort de guerre, l'International Latex Company s'est mise à développer des choses pour l'armée, par exemple des canaux de sauvetage gonflables, et elle a créé à ce moment-là une division de recherche permanente pour le gouvernement avec l'idée de trouver des applications militaires à la technologie Playtex. Et au moment où la NASA... fait son appel à projet pour inventer la nouvelle combinaison spatiale, celle qui ira sur la Lune, Playtex se dit bah, « pourquoi pas nous hein ?» Et les couturières de chez Playtex, elles ont une expérience unique en façonnage des matières techniques. L'entreprise est donc totalement qualifiée et elle est rapidement à l'origine d'une innovation majeure, les joints aux articulations des combinaisons qui permettent donc aux astronautes de se mouvoir et qui résistent en même temps à une énorme pression. Sauf que Playtex, pour la NASA, ça sonne pas très sérieux. Hein, c'est une petite entreprise connue donc pour fabriquer des sous-vêtements pour les femmes. Et au lieu de faire de Playtex le fabricant officiel de leur combinaison, dans un premier temps, la NASA va demander à l'entreprise de sous-traiter pour un fournisseur plus connu, plus respectable, une division de United Aircraft, un truc de bonhomme qui fait bien sérieux. Il faut dire à la décharge de la NASA que le directeur général de la division spéciale chez Playtex n'est même pas ingénieur, c'est un réparateur télé particulièrement doué, qui bricole et qui bidouille très bien. Il a été repéré par Abraham Spanel et c'est lui qui va devenir l'ingénieur en chef du projet de la combinaison Apollo, tandis que son assistant, lui, c'est un ancien vendeur de machines à coudre. Alors évidemment, cette équipe est prise de haut par le fabricant officiel et tout ça mène à un divorce entre Playtex et ce fournisseur de la NASA.
Enfin, Playtex réussit quand même à revenir dans la course, Ivan.
Mais oui, l'entreprise décide de tenter sa chance seule et de prouver à la NASA qu'elle est la plus à même de construire la meilleure combinaison pour aller sur la Lune. Pour ça, elle lance la recherche et le développement à ses propres frais. Et quand arrive la série de tests, Playtex affronte deux concurrents, jugés donc plus sérieux. Et alors là, c'est la catastrophe. Le casque de la combinaison du premier concurrent explose pendant les tests. Et dans le simulateur, les épaules de la seconde gonflent tellement que l'astronaute ne peut pas repasser la porte de la navette spatiale. Ça veut dire que s'il était parti comme ça, il serait resté coincé sur la Lune pour une simple raison de ne pas pouvoir rentrer dans la navette spatiale. Des choses donc assez éliminatoires, hein, vous vous en doutez. Et c'est la combinaison Playtex qui remporte haut la main la compétition. C'est dans cette combinaison que Buzz Aldrin et Neil Armstrong marchent sur la Lune. Une combinaison faite par des couturières habituées à fabriquer des soutiens-gorge et des gaines. Et certaines d'entre elles ont laissé leur nom ou des petits messages dans les 21 couches qui composent ces combinaisons. Oh. Et c'est comme ça qu'elles ont un petit peu, elles aussi, voyagé dans l'espace à une époque où les femmes étaient totalement exclues de la course aux étoiles.
Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup, Ivan.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob, et surtout avec vous, David Cassel-Lopez.
Oui, c'est difficile de trouver quelque chose de moins à la mode que le pétrole aujourd'hui. Il m'est arrivé ces dernières années de rencontrer dans les soirées des gens qui travaillent dans le pétrole, et quand ils m'expliquent ce qu'ils font dans la vie, ils enveloppent toujours leurs phrases dans des gros coussins de justification morale en disant « Oui, c'est vrai que je travaille dans le pétrole, mais je veux dire, on fait quand même beaucoup d'actions pour l'environnement. Et en plus, tu sais, c'est une question de demande. Aujourd'hui, en plus, il n'y a pas d'alternative fiable aux hydrocarbures, sauf le nucléaire peut-être. Mais alors merci pour se prendre un Fukushima dans le visage. » Et ils font des grimaces comme ça et ils se contorsionnent de honte comme si leur travail, c'était de torturer des chats avec des outils rouillés. Donc le pétrole. Pétrole, c'est pas cool. Et pourtant, le pétrole, c'est partout. Dans nos voitures, dans tout ce qui est en plastique, oui. Même les préservatifs, il y a du pétrole dedans. Dans les shampoings, dans les savons, dans les slips, dans les chemises. Donc, à la très rare exception des gens qui vivent comme des ermites dans des fermes autogérées, on a beau ne pas aimer les gens qui travaillent dans le pétrole, on aime beaucoup les choses qu'on peut faire avec le pétrole. Mais alors, d'où il vient, ce pétrole? La plus grande partie du pétrole, il vient de petits êtres vivants marins, genre plancton, algues, tout ça, qui sont décédés il y a très longtemps. Et dont le corps sans vie, à la suite de ce décès, s'est déposé au fond de la mer. Ils se sont presque entièrement décomposés, mais pas entièrement. Il en est resté une substance qu'on appelle le kérogène. Et là, avec le mouvement des plaques tectoniques, ce kérogène, il s'est enfoncé dans les profondeurs de la Terre. Or, vous savez que dans les profondeurs de la Terre, il fait extrêmement chaud. Et sous l'action de cette chaleur et d'autres phénomènes un petit peu techniques qui ne sont pas super fun à expliquer dans une chronique, c'est devenu d'une part du pétrole et d'autre part du gaz naturel. Mais comme les plaques, elles continuent à bouger, eh bien il arrive que ce pétrole, il remonte à la surface de lui-même sur une période de millions d'années, et c'est comme ça que les êtres humains l'ont découvert. Et ils l'ont découvert il y a très 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 longtemps, du temps de la préhistoire déjà. Ensuite, dans l'Antiquité, on l'a utilisé, d'abord pour faire des choses assez anecdotiques, comme colmater les coques des bateaux pour les rendre imperméables. Pour faire aussi les feux grégeois, on pouvait l'enflammer un petit peu et le lancer sur des gens. Mais c'est tout ça, c'était vraiment très, très anecdotique. Et puis, au milieu du 19e siècle, on a fait une découverte. À ce moment-là, l'une des principales façons de s'éclairer
dans le monde occidental, c'était de faire brûler une substance qui se trouve dans le crâne des baleines. Et pour ça, bien sûr, il fallait tuer plein de baleines. Ce qui posait un problème non seulement pour les baleines qui se trouvaient décédées, mais aussi pour les gens. Parce que tuer des baleines, c'est laborieux et cher. Et c'est d'autant plus laborieux et cher quand il n'y a plus beaucoup de baleines. Et là, on s'est rendu compte qu'on pouvait remplacer l'huile de baleine par du pétrole pour s'éclairer. Le problème, c'est que le pétrole se trouve surtout profond dans la terre et qu'on ne savait pas comment faire pour creuser les trous pour aller chercher ce pétrole. Mais à force d'essais, il y a un certain nombre de messieurs qui y sont arrivés, et en particulier un qui est resté dans l'histoire comme le pionnier mondial du forage pétrolier et qui s'appelle Edwin Drake. Le 27 août 1859, dans une petite ville de Pennsylvanie qui s'appelle Titusville, il a creusé un trou jusqu'à 21 mètres de profondeur et là, le pétrole a jailli. Ça a donné une petite ruée vers le pétrole et pendant une quarantaine d'années, les industriels ils se sont fait des coups en or en vendant du pétrole pour éclairer. Mais là, il y a eu un problème assez massif, c'est qu'on a inventé...
L'électricité.
On a inventé l'électricité. Et les industriels, ils ont flippé leur race pour leurs milliards, parce que tout à coup, le pétrole, il ne servait plus à rien. Mais heureusement, on a inventé autre chose.
Le moteur.
Exactement, à la fin du 19e siècle, au moment où on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce pétrole ? On va perdre de l'argent, tout ça. » On a inventé les voitures. Et on a décidé, parce que ce n'était pas la seule option possible, on a décidé d'utiliser le pétrole pour les faire marcher. Donc, l'industrie pétrolière a été sauvée. Alors moi, quand j'étais petit, et même quand j'étais adolescent, le principal sujet dont on parlait en ce qui concerne le pétrole, c'était le fait que bientôt, il n'y en aurait plus. Mais c'est assez rigolo de voir que de mon vivant, même alors que je suis pas... j'ai vu ce problème passer complètement au second plan. D'une part, parce qu'on s'est rendu compte qu'il en restait vachement plus qu'on pensait, notamment le pétrole de schiste qu'on peut faire sauter en ayant, mais qui pose d'autres problèmes, enfin en tout cas des pétroles qu'on appelle non conventionnels, mais surtout parce que le problème maintenant, c'est bien sûr ce FDP de CO2. Vous-même, vous savez. Voilà. Vous-même, vous savez.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez naturellement retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout trois nouveaux personnages qui ont une ville à leur nom. Le roi des Belges, Léopold II, qui s'est octroyé le Congo, un pays d'Afrique loin de la Belgique, dont la capitale a longtemps porté son nom, Léopoldville. Puis le général vietnamien Ho Chi Minh, qui a changé plusieurs fois de nom, sans jamais se douter que le sien deviendrait celui d'une ville que beaucoup encore appellent Saïgon. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une star américaine qui porte le nom d'une ville américaine.
Ouais, je sais, dit comme ça, ça paraît fou. Hein. Je vous raconte Denzel Washington, qui est né à...
Washington.
Eh ben non, même pas. Je vous dirai où demain.
Ah oui. Bon, le suspense est à son comble. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.